Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes politologue et fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique et vous êtes également directeur de la publication de Desk Russie. Aujourd'hui, comme bien souvent avec vous, on va parler du conflit en Ukraine qui dure maintenant depuis presque un an. Et pour commencer, eh bien, je vous propose de prendre un angle un peu différent de d'habitude puisque selon Dimitri Polianski, l'ambassadeur adjoint de la Russie aux Nations Unies, eh bien, Israël sera un médiateur potentiel en Ukraine. Alors, qu'en pensez-vous, Nicolas Tenzer?
Écoutez, je pense que d'abord, nous n'avons pas besoin de médiateur dans ce conflit. Parce que concrètement, il n'y a rien à médier, il n'y a rien à négocier. Est-ce qu'on peut imaginer de négocier ou d'avoir une médiation sur les frontières de l'Ukraine? Certainement pas, parce que tous les chefs d'État et de gouvernement ont bien dit qu'il s'agissait de respecter l'intégrité territoriale et la pleine souveraineté de l'Ukraine sur son territoire qu'elle a en vertu des accords internationaux. Est-ce qu'il s'agirait de médier sur la punition des crimes de guerre? Là aussi, le droit international s'impose à tous. Et quand des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression ont été commis, il n'y a rien à médier. Est-ce qu'on pourrait faire une médiation sur les réparations? On ne voit pas exactement pourquoi, même si après on peut discuter peut-être du rythme avec lequel ces réparations de la Russie à l'Ukraine devraient venir. Est-ce qu'on peut faire une médiation sur le retour des enfants qui ont été déportés par la Russie, les enfants ukrainiens, ce qui constitue un génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948? Là aussi, il n'en est pas question. Donc, il y a eu beaucoup de propositions de médiation par le passé, pas seulement Israël, mais également la Chine ou l'Inde ou la Turquie, par exemple. On ne voit pas très bien ce que ces États auraient à faire là-dedans, dans un processus qui doit être régi de manière stricte par le droit international. Et la seule solution possible, on le sait depuis le début, c'est que l'Ukraine gagne cette guerre et que la Russie la perde définitivement.
Alors on a remarqué tout de même depuis le début de l'invasion russe en Ukraine qu'Israël, justement, évitait de prendre des positions trop affirmées concernant l'Ukraine ou la Russie, étant donné que l'État hébreu entretient des relations avec les deux pays. Israël, par exemple, ne fournit pas d'armes à l'Ukraine, mais à l'ONU, le pays vote quand même en faveur des résolutions anti-russes. Alors plutôt qu'un médiateur dans le conflit, est-ce qu'on peut dire qu'Israël est tout de même un allié de l'Ukraine ?
Écoutez, je dois dire malheureusement que j'ai de plus de mal à considérer Israël comme un véritable allié de l'Ukraine. Parce que, tout simplement, on devrait quand même rappeler au gouvernement israélien, qui sont quand même aussi, d'une certaine manière, dépositaires d'une partie, ce n'est pas le seul gouvernement israélien, évidemment, qui l'est, c'est toute l'humanité, de la mémoire des crimes qui ont été commis, évidemment, je pense à la Shoah, notamment, et quand on voit un génocide se renouveler en Ukraine, quand on voit également l'ancien grand rabbin de Moscou dire que l'antisémitisme est de retour en Russie et appeler d'ailleurs ses compatriotes juifs à quitter la Russie parce qu'il y a tellement de craintes, quand on voit que vous avez à la tête de l'Ukraine un président juif avec une forte communauté juive encore présente, respectée, vénérée. Rappelez-vous la grande Menoura qui a été, mise quasiment au centre de Kiev. Je me dis qu'il y a vraiment une forme d'absence de fidélité du gouvernement israélien envers cette mémoire. Et je trouve que Israël devrait absolument fournir toutes les armes possibles à l'Ukraine, qu'il s'agit de défense antiaérienne. On sait qu'Israël dispose de ce qu'on appelle le dôme d'acier, qui est quand même une protection extrêmement forte et au moins qui pourrait couvrir un certain nombre de zones en Ukraine, que ce soit également des armes offensives. Et je trouve que ce gouvernement-là n'est pas sérieux, de même qu'il n'a pas été sérieux dans le temps, dans le soutien au combat du peuple libre syrien. Il y a eu une position extrêmement ambiguë vis-à-vis de ce gouvernement, coupable sans doute des pires crimes contre l'humanité qui a été commis au XXIe siècle. Donc je trouve que la position d'Israël, sans doute pour ménager une partie des intérêts, électoraux d'une partie de la population d'origine russe en Israël, n'est tout simplement pas décente.
Alors dans la foulée, ces dernières semaines, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré ses demandes d'aide militaire aux alliés occidentaux. Après de nombreuses tergiversations, on a vu que la semaine dernière, l'Allemagne avait accepté de fournir des chars Léopard 2 à l'Ukraine, tandis que les États-Unis ont accepté de fournir des chars Abrams. Cependant, le président américain Joe Biden a affirmé que Washington refusait d'envoyer des avions de combat F-16 à l'Ukraine et l'Allemagne a de son côté également rejeté cette demande de Kiev. Alors pardonnez-moi, la question peut être un petit peu naïve, mais pourquoi les pays sont-ils d'accord pour les chars, mais pas pour les avions de combat F-16?
Alors, pour moi, je ne le comprends pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les alliés sont résolus à faire gagner l'Ukraine, eh bien, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il est indispensable de fournir à l'Ukraine, et ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt, cela aurait sauvé quand même des dizaines de milliers de vies ukrainiennes, ne l'oublions jamais. Donc si on veut être sérieux dans cette volonté pour l'Ukraine de reconquérir tout son territoire, il faut donner à l'Ukraine toutes les armes, je dis bien toutes, dont elle a besoin, c'est-à-dire non seulement des chars lourds en quantité suffisante, et ça aurait dû être fait donc depuis longtemps, mais également des avions de chasse et enfin des missiles à longue portée pour frapper en profondeur dans le dispositif ennemi. Je tiens quand même à dire que le droit international en la matière est absolument fondamental. Je rappelle donc cet article 51 de la Charte des Nations Unies qui dit très clairement que chaque pays agressé, ce qui est le cas de l'Ukraine, a le droit à l'autodéfense et que dans ce cadre, elle peut appeler tout ami, tout allié à l'aider dans cette défense de son territoire, y compris d'ailleurs, ce ne serait pas totalement disproportionné par une intervention directe. Cet article dit qu'évidemment que dans le cas de cette autodéfense, non seulement évidemment le pays peut frapper des troupes ennemies sur son territoire, mais peut également cibler des infrastructures militaires, et je dis bien uniquement militaires, pas civiles, dans le territoire ennemi à partir du moment où l'on a repéré que ce sont de ces infrastructures, bases de lance-missiles par exemple, que partent les coups frappés sur le territoire national. Donc je pense qu'il faut être totalement sérieux et les prétextes que l'on entend souvent, l'escalade ou encore la co-belligérance, un terme qui n'a strictement aucun sens en droit international dès lors qu'il s'agit d'une autodéfense et pas d'une agression, je dirais ces mots sont à mon sens très mal utilisés, ou en tout cas utilisés mal à propos par un certain nombre de dirigeants occidentaux. Donc je ne comprends pas cette réticence, je trouve que cette forme de soi-disant prudence, soi-disant donc pour éviter cette escalade dont beaucoup parlent, est en fait la plus grande imprudence parce que ça renforce Poutine et on sait que tant que Poutine ne sera pas défait complètement et de ce point de vue-là l'Ukraine est la ligne de front véritable, eh bien les agressions continueront, non seulement bien sûr contre l'Ukraine mais également contre d'autres pays.
Et on a quand même l'impression qu'en France, on semble un petit peu moins catégorique qu'aux États-Unis. Et en Allemagne, par exemple, le président français Emmanuel Macron a estimé que rien n'était exclu concernant les demandes d'aide militaire de l'Ukraine. Et Emmanuel Macron reçoit d'ailleurs ce mardi le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, à l'Élysée. À quel point cette rencontre est importante et quelle est sa portée ?
Je crois qu'elle est tout à fait fondamentale. Vous avez également aujourd'hui à Paris, je trouve que je l'ai rencontré tout à l'heure, le président également de la Rada, donc le Parlement ukrainien, Raslan Stefanchuk, et je pense que c'est un signe tout à fait important. Et je pense que la France, effectivement, pour l'instant, elle a dit pourquoi pas, parce qu'il est très important que ces décisions soit prise dans le cadre d'une coalition, mais je pense que la France devrait être beaucoup plus allante. Elle a traîné comme les autres pays, hein. Il n'y a pas d'exceptionnalité française dans la fourniture de nouvelles armes nécessaires à l'Ukraine. Et je pense que de ce point de vue-là, parce que les chars français ne sont sans doute pas les mieux adaptés pour une série de raisons techniques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je pense que des avions de chasse, notamment les Mirage 2000, qui sont plus facile à piloter certainement que les Rafales qui nécessitent moins de temps de formation, eh bien, seraient parfaitement adaptés. Alors, quant au président Biden, effectivement, il a dit « no » hier, mais c'était pas vraiment d'ailleurs dans une conférence de presse, hein. C'était parce qu'il y avait une question d'une journaliste qui a été posée alors qu'il descendait de l'hélicoptère et qui a dit « no » comme ça en passant. On peut espérer que le président Biden aura la sagesse de revoir, disons, cette affirmation peut-être un peu brutale et très peu explicite.
Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes politologue et fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Je rappelle que vous êtes également directeur de la publication Desk Russie. Merci beaucoup pour vos éclairages. À très bientôt.
Merci à vous.